Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, 8 jours après, nous sommes le 8e jour, nous avons entendu 2 apparitions aujourd'hui, les 2 qui ont lieu le dimanche, ce 8e jour qui est un nouveau jour. Nous sommes excités de savoir que voici 2000 ans, dès les 2 premières apparitions aux disciples du Christ, à ses disciples rassemblés, eh bien, le jour du dimanche est né avec lui. Ce n'est plus un autre jour, ce n'est plus le sabbat transporté, c'est vraiment le nouveau jour de la création, comme dans la Genèse, le jour 1, le jour premier de la création. Alors voyons ces apparitions, nous avons déjà goûté la semaine dernière les apparitions aux saintes femmes. C'était plus simple car les apparitions aux femmes n'ont pas besoin de s'expliquer, elles comprennent immédiatement. Entrons maintenant dans des apparitions aux disciples, aux hommes. C'est plus laborieux, ce n'en est pas moins beau. Tout d'abord, le Seigneur dans sa première apparition, ça sera mon plan, je vais faire la première partie sur la première apparition et la deuxième partie sur la deuxième, vous ne serez pas perdus. Parce qu'elles sont très différentes. La première, le Seigneur se laisse voir, c'est une monstration. Dans la deuxième, le Seigneur se laisse toucher, c'est une démonstration. Ce n'est pas la même chose à chaque apparition du Seigneur qui est apportée pour la vivification des fidèles. Tout d'abord, dans la première apparition, celle donc de dimanche dernier, au soir de dimanche dernier, le Seigneur se laisse montrer, se laisse voir, il se montre à ses disciples. Il se montre porte fermée, c'est-à-dire, et ça nous est bien précisé, qu'il se rend présent, il est là, il vient, dit saint Jean. Pour nous indiquer que, d'une part, ce n'est pas un fantôme, il a bien un corps, mais en même temps pour dire que ce corps est sorti de la nécessité du temps et de l'espace. C'est un corps glorieux qui possède et l'éternité et l'ubiquité, ce propre corps qui est identique au mien et que le Seigneur a pu emmener dans son éternité, dans sa gloire. C'est déjà la première bonne nouvelle de cette apparition pour nous et il va d'ailleurs dire à ses disciples, il va leur apporter la paix qui seule vient de Dieu et qui peut nous conforter dans ce face-à-face dont nous ne pouvons avoir peur dorénavant, car nous connaissons le visage du Seigneur. Voilà ce qu'apporte tout d'abord cette monstration du Seigneur à ses disciples. Il se laisse reconnaître. Mais il y a plus, il va profiter de cette apparition pour souffler sur eux et leur donner le pouvoir de remettre les péchés. Tout d'abord, il leur donne l'Esprit Saint. Vous avez entendu saint Jean dans la lecture, dans l'Épître. Eh bien, cet Esprit est profondément uni. Et ce qu'il va faire de cet Esprit, c'est qu'il va le remettre à ce collège des apôtres. Il va les constituer comme l'Église qui est naissante et qui va se répandre. Il va vraiment les constituer comme apôtres grâce à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint dans l'Église qui fait de nous vraiment une église apostolique. Ce n'est pas d'abord une action humaine, c'est d'abord une action divine. Oui, il les envoie, comme lui-même a été envoyé, il les constitue eux-mêmes envoyés. Si nous sommes chrétiens, nous sommes essentiellement des apôtres, car si nous proclamons dans le credo que l'Église est apostolique, c'est bien sûr parce qu'elle a été fondée sur les apôtres, mais qu'elle est elle-même essentiellement l'Église, c'est-à-dire qu'on ne peut penser l'Église sans répandre l'Évangile, sans être nous-mêmes les moyens de cette annonce du Christ. L'Église, c'est Jésus-Christ elle-même. C'est Jésus-Christ elle-même, cette Église, c'est lui-même qui est répandu et communiqué, comme le dit Bossuet, c'est-à-dire que c'est nous qui, dans notre action, répandons le Christ. Et que leur donne-t-il comme pouvoir? Le pouvoir essentiel, ce pourquoi il est venu, ce pourquoi il s'est incarné, ce pourquoi il est mort, pardonner les péchés. Oui, c'est une mission qui est solennellement remise ici aux apôtres, de pardonner les péchés. Alors, à cette première apparition, Thomas n'est pas, ce qui ne veut pas dire, et c'est intéressant pour nous, qu'il ne participe pas du pouvoir de remettre les péchés ou qu'il n'aurait pas reçu cet Esprit Saint, quand bien même il le recevra à la Pentecôte avec les autres, car déjà dans l'Ancien Testament, dans les Nombres, alors qu'on départissait des pouvoirs, Eldad et Medad n'étaient pas présents physiquement et pourtant ils ont eu part au ministère. Oui, l'absence de Thomas en quelque sorte nous dit une première chose au soir de ce premier jour. Cet esprit qui est remis à l'Église, qui n'est pas simplement donné à Pierre, Paul, Jacques, ceux qui sont là, il est donné à ce collège qui va lui-même tenir en lui, comme l'a dit saint Jean dans l'Épître, le témoignage de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, et c'est cet esprit qui va se transmettre. Voilà pour cette première apparition de dimanche dernier que j'imagine vous avez déjà beaucoup médité durant cette semaine. Mais il y a encore une autre apparition qui aujourd'hui nous touche, et c'est celle de Thomas. Je vois d'abord la figure même de Thomas avant de voir ce que cela nous apporte que cette apparition. Tout d'abord, Thomas, c'est Thomas le Magnifique. C'est peut-être, je dois le dire, le confesser, mon apôtre préféré après Saint-Pierre, car c'est un intrépide. Il faut peut-être se demander pourquoi Thomas n'était pas là lors de la première apparition. Eh bien, c'est marqué dans l'Évangile, hein, c'est sous-entendu. Ils étaient là enfermés par peur des Juifs. Cela sous-entend que Thomas était le seul à n'avoir pas peur. Il avait donc dû sortir dans Jérusalem pour se renseigner, bien qu'il fût connu comme étant un disciple du Seigneur, et il n'avait pas craint de se montrer. Thomas, c'est l'intrépide absolu dans son action. La tradition nous rapporte, et nous n'avons pas de mal à le croire, qu'il est allé jusqu'aux Indes, il fallait qu'il fût bien intrépide, qu'il ne soit pas simplement un gentil petit apôtre écoutant la parole de Dieu, mais vraiment un homme plein de vigueur et de force pour pouvoir se montrer à tous impunément 3 jours avant, juste après la mort de son Seigneur. Oui, il n'est pas là et c'est une disposition divine, dit saint Grégoire le Grand, n'en doutez pas, car il l'a prévu qu'il puisse témoigner pour nous. Thomas, enfin, sur sa personne, c'est aussi un intrépide intellectuellement. C'est un intrépide dans sa démarche de foi. Rappelez-vous, quand le Seigneur prépare ses disciples à sa montée au ciel, quand il leur dit « Je prépare, je monte et je vais vous préparer une place. Là où je serai, vous serez. » Quel beau discours. Oui, mais c'est Thomas qui interrompt le Seigneur et qui lui dit, peut-être avec une certaine vigueur, « Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Voilà Thomas, ce personnage qui ne tente pas d'accroire un peu tout ce qu'on lui raconte, mais qui cherche à démontrer sa foi. Car enfin, ce que le Seigneur va lui donner, c'est non seulement de le voir, mais immédiatement après être apparu, avoir assuré ses apôtres de la paix qui est avec eux, il se dirige vers Thomas. Il ne lui fait aucun reproche. Tout d'abord, il lui demande de le toucher, de le voir, de le contempler, de démontrer que ce que les autres lui ont dit est bien vrai. Oui, Thomas a touché pour moi le corps du Seigneur et je suis heureux qu'il ait douté un instant, qu'il n'ait pas cru immédiatement ses frères, de sorte que je puisse m'appuyer, moi, sur sa foi, lui qui déclare « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et oui, Thomas, vous pouvez le croire quand il dit qu'il a en face de lui son Seigneur et son Dieu, puisqu'il a voulu lui-même le démontrer. Alors, dans notre propre foi, bien sûr, je vous encourage à croire, je vous enjoins à croire que le Seigneur est ressuscité et que nous en vivons. Cela ne veut pas dire que vous-même, vous n'avez pas à mettre en œuvre votre intelligence pour chercher le Seigneur que vous connaissez déjà par la foi, pour sans cesse explorer la profondeur de la richesse de Dieu. Que faites-vous quand vous allez à Notre-Dame de Paris vénérer la Sainte Couronne d'épines? Vous allez voir et toucher ce qui a touché le Christ. Que faites-vous quand vous contemplez les clous, les 5 clous qui ont transpercé son corps? Vous allez voir, toucher et vénérer ce qui a touché le Christ. Quand vous allez à Milan contempler le suaire, vous allez voir et vous rendre compte vous-même de ce corps réellement présent dans le monde et dont nous pouvons avoir une recherche éperdue, car elle est peut-être sans fin, mais elle est fructueuse. Alors aussi dans votre intelligence, n'hésitez pas à vous lancer, à lire, à comprendre, afin de pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous, car notre espérance surpasse toute connaissance, et il serait dommage que les chrétiens, possédant une connaissance qui dépasse toute connaissance, s'arrêtent gentiment de réfléchir pour se contenter d'une foi qui ne serait pas instruite par la raison. Oui, notre raison est un moyen de pénétrer toujours plus avant dans la foi qui nous est donnée de croire a priori. C'est ce que nous pouvons comprendre de l'attitude de Thomas. Priez ce saint apôtre afin qu'il vous donne et sa vigueur et sa détermination et son intelligence. Et peut-être le Seigneur vous donnera-t-il lui-même de voir et de toucher, car de nos yeux de chair, nous verrons Dieu.